Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Y aura-t-il assez de doses de vaccins pour suivre le calendrier fixé par le gouvernement français? Si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas de notre faute, soulignait hier le ministre de la Santé, alors que l'Union européenne planche sur une nouvelle proposition, celle d'AstraZeneca. Explication dans ce journal. La réforme de l'assurance chômage, remise en question par un organisme placé sous la présidence de Jean Castex, sa note plutôt critique dans cette édition. Nous irons ensuite en Éthiopie, où l'un des principaux opposants au Premier ministre est en prison à 5 mois des législatives. Et puis au Sénégal, où l'on s'inquiète de la disparition d'une étudiante partie à Paris, figure de l'excellence dans son pays. Le ministre de la Santé reconnaît que le respect du calendrier vaccinal dépend aussi de la disponibilité des vaccins sur le territoire français. Olivier Véran était devant le Sénat hier soir. En moyenne, 5 à 7 centres de vaccination devront fonctionner dans chaque département d'ici la fin du mois, a-t-il dit. Mais la vaccination effective de la population ne dépend pas que du gouvernement. Olivier Véran.
Il y a des zones d'incertitude qui ne sont pas de nature politique et qui sont de nature scientifique. Par exemple, est-ce que le vaccin AstraZeneca sera validé par les autorités européennes? S'il l'est, est-ce que c'est fin janvier? Est-ce que c'est fin mars? S'il l'est, est-ce que ce sera destiné à un public âgé? Ou est-ce que c'est pour un public plutôt jeune? Je n'ai pas les réponses à ces questions. Imaginons que fin janvier, AstraZeneca soit validé pour les gens en dessous de 65 ans. Forcément, nous aurions alors deux circuits parallèles. Un circuit prioritaire avec les vaccins destinés aux personnes âgées pour les protéger, mais en même temps, le démarrage d'une campagne de vaccination de personnes plus jeunes, moins à risque, avec un vaccin qui leur serait réservé du fait qu'il ne serait pas indiqué pour les publics les plus fragiles. Vous comprenez ? Je n'ai pas la réponse à ces questions, puisqu'elles relèvent du verdict des autorités sanitaires européennes.
Olivier Véran qui prévient donc et qui cite AstraZeneca, dont le vaccin est justement examiné par Bruxelles en ce moment. Déjà autorisé en Grande-Bretagne depuis le 30 décembre dernier, ce vaccin d'AstraZeneca est différent de ceux que l'on connaît déjà, Pfizer, BioNTech et Moderna. La technique sur laquelle il repose n'est pas la même, Bénédicte Robin.
Pfizer, BioNTech et Moderna utilisent la technique de l'ARN messager qui consiste, pour faire simple, à faire en sorte que votre corps produise lui-même la protéine responsable de l'infection au Covid et qui, dans le même temps, nous fait produire des anticorps pour lutter contre elle. Elle s'appelle la protéine Spike. Cette idée d'inoculer un morceau d'ADN du virus, on la retrouve dans la technique d'AstraZeneca, mais de manière différente. Cette fois, un autre virus fait office de cheval de Troie, explique Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, spécialiste des vaccins et expert auprès de la Haute Autorité de Santé.
Le cheval de Troie est une bonne image. On va utiliser un autre virus qui est ce qu'on appelle un adénovirus, un virus responsable des rhumes, qui lui pose pas de problème, qui donne pas de maladie grave. Et on va lui faire produire donc de manière artificielle la protéine du virus SARS-CoV-2 qui est la protéine Spike et induire une réponse immunitaire. Le fait de le présenter avec un virus entier, en fait, induit a priori une très bonne réponse immunitaire. C'est une des meilleures manières d'induire une réponse immunitaire. Et c'est pour ça qu'on utilise ce type de plateforme, et notamment les vaccins contre Ebola. On a 3 vaccins contre Ebola qui utilisent des plateformes virales.
Ça le rend également moins fragile. Il peut être conservé simplement au réfrigérateur. Il coûte aussi moins cher. En revanche, il serait un peu moins efficace que ses concurrents à ARN, autour des 70% en moyenne d'après des chiffres publiés en fin d'année, mais qui devaient être mis à jour. L'Agence européenne des médicaments a justement indiqué qu'elle était en train d'examiner ces informations complémentaires.
Parallèlement à la vaccination, y aura-t-il un couvre-feu à partir de 18h pour tous en France? Le gouvernement a 2 jours encore pour trancher avant une conférence de presse prévue demain soir par le Premier ministre. Les chiffres de contamination restent élevés, mais pas ou pas encore catastrophiques, avec plus de 19 000 nouveaux cas recensés hier, dont 1% de variants britanniques. Mais le gouvernement veut montrer qu'il y a aussi d'autres sujets que le SARS-CoV-2. L'exécutif organise donc un séminaire aujourd'hui, séminaire gouvernemental, notamment pour faire le point sur le calendrier des réformes en cours, projet de loi climat, lutte contre le séparatisme, ainsi que retraite ou assurance chômage. Sur ce point-là, la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur en avril, le Conseil d'analyse économique, un organisme placé sous la présidence du Premier ministre, ce conseil publie une note critique. Il ne fait pas dans la dentelle, Anne-Laure Jumet.
Pour résumer, il faut tout revoir. Le Conseil d'analyse économique n'est pas tendre à l'égard du régime d'assurance chômage. Aujourd'hui, dit-il, les partenaires sociaux n'ont qu'un rôle de façade, c'est l'État qui décide de tout. Et pour que le système soit plus équilibré, les trois économistes, auteurs de cette note, suggèrent d'associer les parlementaires. Les réformes de l'assurance chômage seraient ainsi validées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Autre proposition, mettre plus de monde autour de la table, aux côtés des syndicats et du patronat, des représentants de l'État et des travailleurs indépendants. Ils prendraient leurs décisions sur la base d'études commandées par leurs soins, car aujourd'hui l'expertise fait cruellement défaut, selon le CAE. Un haut conseil de l'assurance chômage, sur le modèle du conseil d'orientation des retraites, pourrait ainsi produire des constats partagés. Enfin, le Conseil d'analyse économique se demande s'il ne faut pas modifier le mode de calcul de l'indemnisation chômage. Système incompréhensible avec des règles absurdes, dit-il. Il regarde avec intérêt les exemples canadiens et américains où les paramètres s'ajustent en fonction de la conjoncture. Plus généreux en période de crise, moins quand l'activité repart. Pour le CAE, il y a en tout cas urgence à se pencher sur la question vu l'ampleur du déficit, 18,7 milliards d'euros fin 2020.
Les États-Unis se déchirent toujours sur la responsabilité de Donald Trump dans le coup de force de ses militants. C'était au Congrès la semaine dernière dans le bâtiment du Capitole. Cette nuit, le vice-président Mike Pence a refusé d'écarter brutalement le président. Pas de déclenchement de l'article de l'amendement 25 donc. Mais les démocrates lanceront tout de même la procédure de destitution. Il pourrait d'ailleurs être soutenu par une partie des républicains. En tout cas, ils sont une grosse dizaine, au moins 17, à pouvoir voter la destitution de Donald Trump. En Éthiopie, il était il y a 2 ans le meilleur allié du Premier ministre Abiy Ahmed, mais Jawar Mohamed est aujourd'hui en prison. Considéré comme le principal opposant au régime dans le pays, il divise, notamment pour son nationalisme assumé pour l'ethnie Oromo. Mais son emprisonnement pose tout de même question à quelques mois de l'élection, et élections notamment législatives. La justice en Éthiopie relance le dossier Noé Oshibodin.
C'est à la demande de Jawar Mohamed et des 22 autres inculpés que la justice a accéléré leur comparution, car les membres du Congrès fédéraliste Oromo, leur parti, veulent avoir une chance de participer au scrutin prévu pour le 5 juin prochain. Pour l'instant, les juges ont déclaré que certaines accusations seront réexaminées. Pour rappel, Jawar et les autres leaders sont accusés de terrorisme, d'incitation à la haine ethnique, de fraude aux télécoms et de port d'armes illégales. Le gouvernement ne nous a pas arrêtés pour des crimes, mais pour nous empêcher de participer à l'élection, ceci est un procès politique, a déclaré ce matin l'un des inculpés. Alors c'est en effet une procédure au contour très politique qui s'apprête à débuter. D'abord car Jawar est décrit comme le principal opposant à Abiy Ahmed, mais aussi car il est le symbole du nationalisme Oromo, l'ethnie majoritaire en Éthiopie à laquelle appartient le Premier ministre. C'est même grâce à son soutien qu'Abiy Ahmed avait pu accéder au pouvoir, et une fois Premier ministre, il s'était subitement retourné contre son allié d'hier. Le parti de Jawar Mohamed, l'OFC, s'est dit très sceptique quant aux élections auxquelles il ne pense pas participer. En effet, ses leaders sont sous les verrous et ses principaux bureaux sont fermés. Un probable boycott que craint le gouvernement fédéral, car il pourrait enflammer la région Oromia, qui a déjà été le théâtre de violents affrontements intercommunautaires l'été dernier.
C'était Noé Oshibodin en Éthiopie. Direction maintenant le Sénégal, où la disparition d'une jeune et brillante étudiante en France suscite l'émoi. En classe préparatoire à Louis-le-Grand à Paris, elle n'a pas donné signe de vie depuis le 4 janvier dernier. Une enquête est menée par les autorités françaises et au Sénégal, dans la maison familiale à 80 km au sud de Dakar. Ses proches sont dans l'attente. Notre correspondante Théa Olivier les a rencontrés.
Dans le canapé du salon familial, Aliousso a les yeux rivés vers la télévision. L'oncle paternel de Diarisso est très inquiet et encore surpris de la disparition de sa nièce.
Elle appelle toujours sa mère et même ses amis ici. Elle n'a pas oublié sa famille. Elle est brave. Elle a reçu une très bonne éducation. Nous n'avons pas pu terminer nos études, mais elle l'a fait à notre place. Une très grosse fierté. Pas pour nous seulement, mais pour tout Sénégalais.
Diarisso est connue pour être la meilleure élève du Sénégal, concours retransmis à la télévision nationale. Elle a aussi publié en 2020 son premier roman aux éditions L'Armatan, un parcours qu'admire Khadi, une de ses cousines.
Souvent, elle parlait de ses projets, de son prochain roman. Donc, c'était une fille avec une intelligence hors du commun. Et rien n'indiquait que quelque chose n'allait pas. C'est dur d'attendre sans savoir quelle issue ça va donner.
Au Sénégal comme en France, les appels à retrouver Diarisso se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Cet élan de solidarité n'étonne pas son parrain, Serigne Baye Thiam, ancien ministre de l'Éducation nationale, désormais chargé de l'eau.
Elle était devenue une personne publique et je pense aussi un modèle pour des jeunes filles surtout qui voulaient réussir dans les études scientifiques. C'est ça qui fait que sa disparition a créé l'émoi et la consternation à l'intérieur du Sénégal comme à l'extérieur.
Toutes les pistes, y compris celle de la fugue, sont envisagées.
Le temps en France métropolitaine aujourd'hui mercredi, il sera généralement pluvieux, neigeux sur les Alpes, ensoleillé près de la Méditerranée et sur la Bretagne. Comptez 2 à 12 degrés du nord au sud ce matin. 6h40.